des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres.
Bonjour Sophie.
Hallelujah!
Beau sourire, est-ce que tu as pris ton rendez-vous?
Écoute, je viens de le faire en direct. Bon. J'ai pendant la petite pause, là, j'ai mon ordinateur avec moi.
Ça sert à quelque chose, les pauses?
Devant tes yeux, ben oui, c'est formidable. Donc, je suis une double AstraZeneca. Et à partir d'aujourd'hui, on pouvait donc, à partir de ce matin, on pouvait prendre un rendez-vous pour une troisième dose. Écoute, moi, je suis depuis le début quand même de cette campagne de vaccination. Bon, il y a eu des ratés, évidemment, dans la pandémie. On reviendra pas là-dessus. Mais pour ce qui est de la campagne de vaccination, honnêtement, je pense que ça mérite des tapes dans le dos. C'est extrêmement bien organisé. Écoute, ça m'a pris quoi? 4 minutes et 30 secondes à peu près pour prendre mon rendez-vous.
Imagine tu pouvoir accéder à un médecin de famille de cette façon-là.
Ah, écoute, arrête.
Au lieu de prendre 4 ans et 30 mois. Là.
tu sais que moi, j'ai pas de médecin de famille. Richard non plus. Je veux dire, c'est épouvantable. Là. Je veux dire, on est des milliers, des centaines de milliers de Québécois. Mais pour revenir, donc, la campagne de vaccination, écoute, ça va vraiment très, très rapidement. Et il y a toujours un petit questionnaire. Et il y a une question qu'ils nous ont posée pour la première fois. Ils nous ont « Avez-vous peur des aiguilles ?» Et moi, tu le sais, j'ai une peur, vraiment une phobie des aiguilles. Et je suis très contente de savoir que là, ils nous demandent si on a une peur des aiguilles ou pas. C'est vraiment très, très bien organisé. Je pense que c'est l'émotion, mais je suis en train de m'étouffer, donc je suis obligée de tousser. Je suis vraiment désolée.
Vas-y. Tu voulais me parler aussi de... on t'a parlé d'Aline.
Oui,
là, Valérie Lemercier qui répond à la famille Dion, qui avait critiqué le film Aline en disant « C'est pas du tout comme ça qu'on était ».
Ben, écoute, premier indice, le film s'appelle Aline. Il s'appelle pas Céline. Le film s'appelle Aline. C'est une fiction. Puis le film, je te l'ai raconté hier. Ça commence, la première image que tu vois à l'écran, c'est un panneau. Et c'est écrit noir sur blanc. Ceci est une fiction inspirée d'un personnage célèbre. Et le personnage célèbre est même pas mentionné quand tu regardes le petit panneau d'ouverture. Ça dit simplement. Et donc, c'est libre à la libre imagination des scénaristes. Les scénaristes, c'est Valérie Lemercier et une dame qui s'appelle Brigitte Buc, qu'on salue, parce que le scénario est vraiment formidable. Donc, elle a été obligée de se justifier, Valérie Lemercier. Et je trouve qu'elle l'a fait de façon très intelligente en disant, écoutez, tout mon film part d'une bonne intention. Il n'y a pas de malice dans son film. Elle n'est pas là pour ridiculiser Céline. Elle n'est pas là pour ridiculiser la famille. Elle n'est certainement pas là pour ridiculiser le Québec. Et une des critiques qu'avait faite Claudette Dion, elle disait, ben nous, on nous fait passer pour des bougons. Notre maison avec ma mère et les 14 enfants a toujours été très propre. Et ça m'a beaucoup intriguée quand elle avait dit ça, Claudette Dion, parce que j'ai vu le film, puis à aucun moment donné dans le film, on donne l'impression que la famille Dion ou la famille Dieu est malpropre. Au contraire, la maison est très bien arrangée. Il n'y a pas de désordre. C'est une maison modeste, mais pas une maison de crottés. C'était pas les bougons qui prostituaient leurs filles. Ça a strictement rien à voir. Et si on veut absolument aller dans un souci de réalisme, parce qu'il y a plein de journalistes qui disent il y a des erreurs factuelles dans le film. Tu peux pas reprocher à un film de fiction d'avoir des erreurs factuelles. À sa face même, ça tient pas debout. Un documentaire, tu peux dire qu'il y a des erreurs factuelles. Un livre, un biopic, tu peux dire il y a des erreurs factuelles, mais à partir du moment où tu dis fiction, les faits n'existent pas parce que c'est le produit de l'imagination de la scénariste. Alors si on veut vraiment chipoter sur les détails, il y a quelque chose que personne n'a relevé jusqu'ici et que je te soumets aujourd'hui, Philippe Vincent. C'est Sylvain Marcel qui joue le rôle du manager.
Ouais.
Le mari de Aline Dieu, le père de ses enfants. Dans la vraie vie, c'était René Angélil. René Angélil, il est d'origine syrienne et libanaise. Pourquoi on a pris Sylvain Marcel? C'est de l'appropriation culturelle. Pourquoi on n'a pas pris
la fiction,
un comédien? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est drôle parce que la famille Dion, ils n'ont pas souligné ça. Ils n'ont pas souligné le fait que, tu sais, Je veux dire, son mari est même pas un immigrant, parce que c'est ça l'histoire de René Angélil. C'est un fils d'immigrant qui a réussi une carrière multimillionnaire à travers. Donc c'est un success story québécois d'un immigrant. Mais là, c'est pas du tout ça dans le film. Donc, je veux dire, si tu commences à chipoter sur les détails, c'est vraiment. Donc je pense que ce que tu lis entre les lignes de la part de Valérie Lemercier, c'est un peu de mauvaise foi de la part des Dion. Et surtout, il faut le rappeler, il y a 14 ans dans la famille. Il y en a un de ces enfants-là, c'est Céline. Là, il y en a deux qu'on a entendus. Mais que pensent les 13 autres?
Ouais, j'allais dire, à 14 enfants, difficile aussi de garder une maison propre. J'en ai seulement un et c'est un...
c'est un défi. Un
travail extraordinaire.
C'est très bien répondu.
Quotidien.
Mais dans le film, la maison est très propre, donc ça n'est pas des bougons du tout.
Bravo à Mme Dion. Tu me parlais de Mary Simons aussi et son français dans le discours du trône.
OK, ben là, je sais pas si on va avoir le temps, mais en tout cas, je veux te faire écouter un petit extrait du discours du trône de Mary Simons, puis après, une petite blague.
Le doux... langues officielles font partie de notre identité. Il est crucial d'appuyer les communautés de langues officielles.
Bon, alors je te le ferai pas écouter au complet parce qu'on manque de temps. Ouais. Mais écoute, les doux langues officielles. Et à un moment donné, elle dit, il faut promouvoir. Promouvoir. Donc, je ne comprends pas vraiment, sincèrement. On nous a menti parce qu'on nous a dit qu'elle avait des cours de français. Puis ça, c'est impossible que quelqu'un qui suit des cours de français depuis sa nomination baragouine le français de cette façon-là, premièrement. Et deuxièmement, on lui soumet le texte, on lui dit, ce paragraphe-là, vous allez devoir le lire en français. Je peux pas croire qu'il n'y a pas quelque part, au bureau du gouverneur général, un linguiste ou n'importe quel francophone de service que tu sors du placard, qui est capable de s'asseoir avec elle puis de lui dire, le mot là qui est écrit P-R-O-M-O-U-V-O-I-R, ça se prononce promouvoir, puis de lui faire faire des exercices de prononciation.
Et de l'écrire phonétiquement.
Elle n'est pas capable de prononcer le mot minorité, elle dit minorité. Mm. Je veux dire, on rit de nous. Et je sais pas si, est-ce que j'ai le temps, 30
oui,
secondes,
oui, oui, oui,
parce
oui.
que Mathieu Bock-Côté, dans sa chronique ce matin, parle aussi du discours de Mary Simons, le discours du trône, puis fait un lien avec un classique de RBO. On écoute ça.
Sure, c'est Wayne Gretzky. I'm on the road to try grab, who did you choose hockey? Crown and song, Canada entier, détermination de vaincre, l'espoir.
Écoute,
mais c'est moi, je veux pas rire de Mary Simons, mais
pourquoi
c'est la frustration d'avoir nommé un unilingue anglophone qui parle Inuktitut aussi, là. C'est plus ça, moi, le problème.
Mais pourquoi il faut pas rire d'elle? Pourquoi on devrait faire comme Sonia Lebel puis féliciter
non, mais
Mary
je félicite
Simons
pas non
pour
plus. Je vais juste dire que c'est pas encourager les gens à l'apprendre. Puis de l'autre côté, c'est après ça qu'elle, je veux dire, pendant 75 ans, elle n'a pas appris le français, elle n'a pas appris le français. C'est la décision du gouvernement Trudeau d'avoir fait fi du français. C'était la
mais
preuve
on peut faire les deux.
Que le gouvernement s'en fout.
On peut faire les deux. On peut ridiculiser le gouvernement Trudeau et je m'excuse. Il faut ridiculiser Mary Simons. Je revendique le droit
Je dis pas que tu n'as pas le droit.
Peux y aller. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup entendu ça des gens qui disaient, il faut pas rire d'elle parce que ça va décourager d'autres gens qui font des efforts. Donc on devrait saluer l'effort plutôt que de souligner ses faiblesses. Je pense que c'est plus dans ce sens-là que tu voulais le dire.
Oui, puis après ça, il y a quand même eu la première fois qu'un autochtone qui parle Inuktitut au Canada. Il y en a pour beaucoup que c'est un symbole extraordinaire aussi. Là.
Oui, mais comme le signalait une chroniqueuse du Soleil dont le nom m'échappe. Hélène Bilzetti. Elle disait quand même l'Inuktitut, c'est parlé juste par 29 000 personnes dans un pays de plus de 30 millions de personnes. Donc,
Michel Jean, il a dit, ça fait 5 000 ans qu'on parle cette langue-là ici. Donc c'est plus ce débat-là après ça. Moi, c'est le gouvernement Trudeau qui essaie de nous dire que le français est important.
Mais écoute, n'importe quelle occasion pour réécouter un sketch de
RBO.
Mais
un sketch
d'RBO là.
De Wayne Gretzky, c'est toujours extraordinaire.
Ça fait toujours du bien,
merci,
ça fait de la mine dans le crayon.
Bonne vaccination. Salut.
Merci.
Richard, bonjour.
Salut.
Je sais pas, mais il va m'accompagner le dimanche 5 décembre, on s'en va se faire vacciner. Parce que Richard, il faut qu'il m'accompagne, hein, parce que sinon je m'évanouis.
Ah, c'est le fun. 5 décembre, t'es occupé.
Dean Allison, c'est un député conservateur de l'Ontario qui n'est pas vacciné. Il dit qu'il n'est pas vacciné pour des raisons médicales. Et là, tu as les instances parlementaires qui disent, on veut contre-vérifier, on veut fouiller dans ton dossier. Mais non. Là, moi, je suis vraiment mal à l'aise avec ça. Est-ce qu'on peut se faire confiance entre députés lorsqu'on est en chambre? Est-ce qu'on va vraiment commencer à fouiller dans les dossiers médicaux des gens pour
c'est
voir s'ils
intense,
sont
hein?
vraiment vaccinés?
Tu es
seul à trouver ça intense ou quoi, là?
Ouais. En même temps, c'est une allergie Tu peux le dire? Je sais pas. C'est qu'il y a tellement de cachettes.
Il peut pas le dire,
c'est que s'il y avait pas de cachette, on pourrait juste dire c'est médical, c'est juste ça. Puis après ça, on le dit pas, mais c'est parce qu'on sait pas il y en a combien. C'est tout là, on sait pas.
Mais il y a peut-être des raisons.
Non, puis après ça, il y a le droit. Non, mais t'as raison. C'est pas au public de savoir quelles sont les raisons médicales d'une personne.
Mais c'est ça, elle dit, je peux pas parce que j'ai des raisons médicales. Point final, ça vient de finir. Mais là, on veut.
C'est que ça ressemble vite à une chasse aux sorcières. Faut être prudent là-dedans.
C'est ça. Mais comme tu dis, il y a des cachettes du côté du Parti conservateur. Ça aide pas non plus. On est dans les cachettes en ces temps-ci, c'est à la CAQ aussi, là, pour les CHSLD. Là.
Pierre Fitzgibbon, que avec la vérificatrice générale, tu fais taper sur les doigts.
10 prêts qui sont problématiques. Là. Tu fais combien de fois qu'il se fait taper ses doigts?
Par la vérificatrice générale, je pense que c'est la première. Mais okay. Après ça, par commissaire à l'éthique, ça a été 3. Hein?
C'est
pour ça qu'il s'est tassé. Richard, bonne émission.
Ben, bon ménage cet après-midi.
Tous les jours. Une gestion quotidienne, ça, dans la maison. Merci à toute l'équipe. Salut. À demain.